الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أما بعد. Mes frères, mes sœurs, nous avons parlé la semaine dernière de se nourrir du halal, du licite. Et nous avons dit que se nourrir du halal, du licite était une cause pour qu'Allah Azza wa Jal accepte nos invocations et nos adorations. Tout comme nous avons montré que se nourrir du halal et du licite était une cause d'acceptation des adorations. Un compagnon, Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, un jour a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, invoque Dieu pour qu'il fasse que à chaque fois que je demande quelque chose à Allah, il me le donne directement. Invoque Dieu pour que toutes mes invocations soient exaucées. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Sa'd, mange de ce qui est licite, mange de ce qui est licite et Allah répondra à tes invocations. Il nous faut donc, si nous sommes vraiment musulmans et si nous sommes vraiment croyants, ne se nourrir et ne s'abreuver que de ce qui est halal, que de ce qui est licite. Nous devons également savoir que notre religion nous ordonne de manger ce qui est utile et bénéfique pour non pas et non pas ce qui est néfaste. Notre religion nous ordonne de manger ce qui est utile et non pas ce qui est néfaste. Tout comme notre religion nous ordonne de prendre ce qui est bon pour nous et de délaisser ce qui est mauvais et impur. Tout ce qui est illicite, haram, c'est mauvais et néfaste. À chaque fois qu'Allah Azza wa Jal a interdit quelque chose, c'est que c'est néfaste. Tout ce qu'Allah nous a interdit en alimentation et en boisson, c'est que c'est néfaste pour nous. Néfaste pour nos cœurs, néfaste pour nos corps, néfaste pour notre santé et néfaste pour toutes nos sociétés. Nous comprenons cela quand nous lisons le verset du Coran qui dit: il vous est interdit la consommation des cadavres d'animaux, tout comme il vous est interdit le sang, la consommation du sang, la viande de porc, ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah, la bête étranglée, celle battue à mort, celle qui a fait une chute et qui en est morte, celle tuée par un autre animal ou celle qui a été dévorée par un prédateur. Ce qui vous est permis, c'est ce que vous avez égorgé au nom d'Allah. Tout ce dont Allah a parlé dans ce verset est interdit et impur. Il fait partie du devoir du musulman. Il fait partie des devoirs du musulman de s'attacher à savoir d'où vient sa nourriture qu'il mange, d'où elle vient, comment cette bête, si c'est de la viande, comment elle a été abattue, qui l'a abattue, qui l'a découpée et comment elle a été préparée. Il n'est pas suffisant de voir écrit halal sur un produit pour être tranquille, car malheureusement beaucoup de commerçants aujourd'hui, en particulier chez les non-musulmans ou ceux qui connaissent peu de leur religion, beaucoup de commerçants aujourd'hui font écrire halal sur leurs produits, de telle sorte qu'aujourd'hui on trouve dans les grandes surfaces des rayons qu'on appelle les rayons orientaux, où on pourra trouver des produits orientaux, et on trouve là toutes sortes de produits alimentaires sur lesquels il est écrit halal. Mais le plus étonnant, c'est que nous pouvons trouver certains produits comme des œufs ou du poisson sur lesquels il y a des étiquettes halal. Cela nous prouve que ceux qui mettent ces étiquettes-là ne savent pas de quoi ils parlent et surtout qu'on se moque de nous. Il nous faut donc faire attention et s'attacher à choisir vraiment ce qui est halal. Bien sûr, ici, nous parlons de ceux qui font écrire halal ou qui font tamponner halal sans être musulmans ou sans connaître véritablement leur religion. Quand un commerçant ou un boucher qui est musulman et qui est connu, qui vient dans notre mosquée et qu'il prie avec nous et qu'il est connu pour sa piété, celui-là, en aucun cas, nous n'avons le droit de douter sur ses produits et de commencer à l'interroger au lieu de faire un interrogatoire. Non, on doit lui faire confiance. Nous parlons ici de tous ceux qui font écrire halal sur tout et n'importe quoi, qui vendent d'un côté ce qui est interdit et de l'autre côté prétendent vendre ce qui est licite. Chaque musulman a l'obligation, en plus de choisir une alimentation halal, il a l'obligation de choisir une alimentation qui est saine et pure. Il ne suffit pas de choisir le licite, le halal. Non, on doit aussi s'attacher à avoir une alimentation saine, pure et bonne pour le corps et pour la santé. La plupart de nos sociétés aujourd'hui sont des sociétés de consommation, des sociétés capitalistes qui n'ont pour seul objectif que faire du profit. Que faire du profit? En jetant à côté, en jetant à côté tous les principes d'humanité et les vertus que l'être humain avait depuis des siècles. Tout se vend aujourd'hui, tout se vend, tout ce qu'on peut manger se vend, tout ce dont on peut tout vendre pour le prix sera à vendre, que ce soit quelque chose de licite ou que ce soit quelque chose de pur, que ce soit quelque chose de bon ou de mauvais. Aujourd'hui, les gens à faible revenu ou ceux qui ont de quoi s'acheter des produits de bonne qualité mais qui sont radins achètent et cherchent à acheter que ce qui n'est pas cher, que ce soit bon ou mauvais pour leur corps. Le Coran nous ordonne de nous nourrir de ce qui est bon et pur. Allah dit: ô vous messagers, mangez de ce qui est bon et pur et pratiquez les bonnes œuvres. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit: ô vous qui avez foi, mangez de ce qui est bon parmi ce que nous vous avons donné. Ou encore, Allah dit: mangez du meilleur parmi ce que nous vous avons donné. Mangez de ce qui est bon, mangez de ce qui est meilleur pour vous, mangez de ce qui est meilleur pour votre corps, de ce qui est meilleur pour votre santé. Ici, Allah utilise le terme tayyib, bon, qui peut aussi être traduit par pur, qui nous donne une information supplémentaire. En plus du halal, de licite, elle nous donne, ce mot nous donne une information supplémentaire. C'est-à-dire que cette alimentation doit être non seulement licite, halal, mais aussi bonne et pure pour nous. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, dans certains versets, a utilisé les deux mots en même temps lorsqu'il parle de notre alimentation. Il a parlé dans certains versets des deux mots, de ce qui est halal et tayyib, bon et licite. Il a dit, par exemple, il a utilisé ces deux mots pour nous faire comprendre que ce sont deux critères qui doivent absolument être présents dans tout ce que nous mangeons et tout ce que nous buvons. Il a dit, à titre d'exemple, mangez de ce qu'Allah vous a donné tant que cela est licite et bon pour vous, et remerciez le Seigneur pour les bienfaits dont il vous a comblé si vraiment vous l'adorez. Dans un autre verset, aux gens, mangez de ce qu'il y a sur terre tant que c'est licite et bon, et ne suivez pas les pas du diable. Le Coran et la Sunna nous parlent également d'un certain nombre de denrées, d'un certain nombre de boissons auxquelles le musulman doit s'attacher et qui doivent faire partie régulièrement de sa table et de ses menus, car ce sont des denrées et des boissons qui sont bénéfiques pour lui. Tout ce dont le Coran et la Sunna nous ont parlé en termes d'alimentation ou de boissons, il a été prouvé depuis longtemps leur bénéfice sur la santé de l'être humain. Allah nous parle par exemple de tous les animaux qui vivent exclusivement dans la mer, les poissons et tous les fruits de mer, etc. Tout ce qui vit exclusivement dans la mer, Allah Azza wa Jalla nous les recommande. Il nous dit: c'est lui qui a créé pour vous les océans afin que vous en puisiez une chair fraîche. Ici, ce verset nous indique non seulement que le poisson et tous les animaux qui vivent dans la mer sont bons pour l'être humain, mais il nous donne une condition supplémentaire pour le poisson et pour toutes les alimentations. Il dit une chair fraîche, tout ce qu'on doit manger pour que les bénéfices pour la santé soient gardés dans cette alimentation, ils doivent être frais. Tous les produits périmés, le musulman ne doit pas acheter ce genre de produits et ne doit pas s'attacher à manger ce genre de produits. Ou tous les produits qui ont été mis dans des congélateurs ou qui ont été surgelés pendant des semaines, des mois, et qui sont sortis des mois après, qui sont décongelés des mois plus tard pour être consommés, cela aussi, le musulman ne doit pas avoir trop cette habitude-là dans la mesure de son possible. Car ce sont des aliments qui ne sont pas frais, et s'ils ne sont pas frais, ils perdent de leur utilité pour l'être humain. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit: nous avons créé pour vous les océans pour que vous en sortiez une chair fraîche. Ici, non seulement Allah nous indique que le poisson qui n'est pas frais peut être mauvais pour l'être humain, mais en plus il indique une solution qui n'est pas notre sujet, mais pourquoi pas le rappeler, il indique une solution. Aujourd'hui, tous les pêcheurs se plaignent des quotas que l'Union européenne met dans leur pêche. Si nous respections ce verset et que les pêcheurs ne s'attachaient qu'à pêcher ce qui est utile aujourd'hui et cette semaine pour les êtres humains, et que la semaine prochaine ils pêcheraient ce qui est utile la semaine prochaine pour les êtres humains, il n'y aurait plus de problème de pénurie de poissons dans les océans. Mais étant donné que les gens pêchent et pêchent et pêchent, et ils mettent dans les ils congèlent et ils ramènent dans le monde entier, c'est ce qui fait qu'il y a la pénurie dans les océans. Donc ce verset est non seulement une solution pour nos santé, mais une solution pour tous ces problèmes économiques qui concernent la pêche. Ensuite, le Coran nous parle également du lait, et Allah Azza wa Jal nous dit: il y a certes pour vous dans les bestiaux un enseignement. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit, extrait entre leurs excréments intestinaux et entre leur sang. Nous extrayons de cela un lait pur et délicieux pour les buveurs. Le Coran nous a parlé du lait pour nous indiquer que le lait, lui aussi le lait qui est pur, non pas celui qui est passé par diverses entreprises et qui a été stérilisé, auquel on a rajouté des éléments ou on a retiré des aliments, le lait pur qui vient d'être sorti de la bête et qui est bu, ce lait-là est très bon pour l'être humain. Et c'est le lait d'ailleurs qui est la base de l'alimentation du bébé pendant 2 ans. Les mères allaitent leurs enfants pendant 2 années entières. Le Coran nous parle également du miel. Et il nous dit « Et ton Seigneur révéla aux abeilles, prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les villas et les treillages que les hommes font. Puis de toutes les espèces de végétation, mangez. Et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre sort un liquide, c'est-à-dire le miel, aux couleurs variées dans lequel il y a une guérison pour les gens. » Et en effet, aujourd'hui, le miel ne se vend pas seulement dans les magasins, il se vend aussi en pharmacie. Le vrai miel, bien entendu, et en particulier la gelée royale. Le Coran nous parle également des figues et des olives. Il nous dit et il nous jure par le figuier et par l'olivier. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous recommande l'huile d'olive pure. Et il dit « Alimentez-vous de l'huile d'olive et soignez-vous avec, car elle vient d'un arbre béni. » Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi parlé des dattes. Et il a dit « Une demeure dans laquelle il n'y a pas de dattes, c'est une demeure dans laquelle ses habitants sont touchés par la faim. » On nous rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de manger des choses différentes et variées lorsqu'il avait les moyens. Lorsqu'il avait les moyens, il s'attachait à manger des choses différentes. Il ne mangeait pas toujours de la même chose. Et il mangeait également, dans un même repas lorsqu'il avait les moyens, quelque chose de chaud et quelque chose de froid. Et c'est ce qu'aujourd'hui tout le monde recommande. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrée, le plat de résistance, le dessert, c'est ce qu'il faut varier entre ce qui est froid et chaud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire lorsqu'il en avait les moyens, et il disait, en mangeant le chaud et le froid, ça ne faisait pas partie des habitudes des Arabes, les gens lui demandaient pourquoi il faisait cela, il disait, nous cassons la chaleur de celui-ci avec le froid de celui-là, et nous cassons le froid de celui-là avec la chaleur de celui-ci. Ô musulmans, mangez donc de ce qui est halal, mangez donc de ce qui est licite, et mangez donc de ce qui est pur et meilleur pour vous et pour vos santé. Avant de faire les invocations, nous ne pouvons terminer ce prêche sans ne parler, ne serait-ce que de manière brève et concise, de ce qui se passe en ce moment, par exemple en Indonésie. Un tremblement de terre qui a touché notre communauté, nos frères en Indonésie, en particulier dans l'île de Sumatra, et qui a laissé derrière lui, ce tremblement de terre, plus de 500 morts jusqu'à aujourd'hui, et quelques milliers de blessés, et plusieurs milliers de personnes qui ont tout perdu ce qu'ils avaient. Le musulman ne peut regarder ce genre d'image indifférent. Il doit être touché par ce dont est touché tous ses frères dans le monde entier. Et il doit s'attacher à invoquer Allah Azza wa Jal pour ses frères qui sont touchés par des catastrophes et des calamités dans le monde entier. Allah Azza wa Jal éprouve nos frères, mais il nous éprouve nous également pour voir si nous serons des frères pour nos frères, ou si nous serons des gens indifférents lorsque nous voyons ce genre d'image. Nous devons donc invoquer Allah pour eux. Et lorsque nous avons la possibilité de collecter et de donner des aumônes pour les aider, nous ne devons pas hésiter et ne pas être avares. Nous devons également faire un bref rappel, mais Inch'Allah, si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera les semaines d'après, et nous ferons un prêche exprès pour ce sujet-là. Nous devons également faire un bref rappel sur ce qui se passe en ce moment, sur les menaces qui pèsent sur la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, Al-Quds. Depuis plusieurs années, la ville de Jérusalem est menacée. Et depuis plusieurs années, la mosquée Al-Aqsa est menacée. Et ces dernières semaines et ces derniers jours, ces menaces se font plus persistantes. Les juifs orthodoxes ou les juifs extrémistes s'attachent à vouloir démolir et détruire la mosquée Al-Aqsa. Qui, cette mosquée Al-Aqsa, n'est pas seulement palestinienne. Elle est non seulement palestinienne, mais elle est surtout musulmane et islamique. C'est la mosquée Al-Aqsa, c'est la mosquée de tous les musulmans dans le monde entier. Et s'il lui arrive quelque chose, chaque musulman, là où il se trouve, pendant qu'il lui arrivait quelque chose, lorsqu'il mourra, devra rendre compte à Allah. Est-ce qu'il a fait ce qu'il pouvait pour sauver Masjid Al-Aqsa? Est-ce qu'il a fait ce qu'il pouvait pour sauver la ville de Jérusalem? Est-ce qu'il a fait ce qu'il pouvait pour sauver la Palestine? Est-ce qu'il a fait ce qu'il pouvait pour aider ses frères, pour aider ses sœurs, pour aider les enfants de Palestine? وأثناء دعائنا سندعو أيضا لامرأة تطلب الدعاء فهي مريضة وأيضا أخبركم بأن في الجمعة المقبلة إن شاء الله سيكون معنا المسؤولون لمسجد مدينة فيلنوف داسك لجمع التبرعات لبناء مسجدهم. Pendant nos invocations, nous allons invoquer Allah Azza wa Jal pour une femme qui est malade. Et également, je vous informe que le vendredi prochain, il y aura une collecte de dons pour la mosquée de Villeneuve d'Ascq, pour la construction de la mosquée de Villeneuve d'Ascq. Allahumma inna nas'aluka an tuslih sha'nana. Allahumma aslih umurana. Allahumma aslih umurana. Allahumma farrij karb al-muslimina fi kulli makan. Allahumma farrij karb al-muslimina fi Indonesia. Allahumma farrij karb al-muslimina fi Indonesia. Allahumma farrij karbahum wa nafis karbahum. Allahumma ij'al hadhihi al-karithata maghfiratan li dhunubihim. Allahumma ij'alha rahmatan lahum fi dunyahum waj'alha rahmatan li mawtahum. Allahumma farrij 'anhum hammahum. Allahumma farrij 'anhum ghumumahum. اللهم إنا نسألك أن تفرج المسجد الأقصى. اللهم أطلق صراح المسجد الأقصى. اللهم أطلق صراح المسجد الأقصى. اللهم اجعل المسجد الأقصى عامرا بالإسلام والمسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من كيد الصهاينة. اللهم حرر المسجد الأقصى من كيد الصهاينة. اللهم حرر المسجد الأقصى وحرر فلسطين وحرر كل بلدان المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي هذه المرأة المريضة. اللهم رب الناس هذه بالبأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استووا اعتدلوا حادوا بين المناكب والأقدام صدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول. Thank you.